J'avais une dernière question par rapport au chantier de démolition. Est-ce que, comment vous prenez, comment vous savez où sont des chantiers? Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes de démolition à Paris qui interviennent? Ou est-ce que c'est bouche à oreille? Comment vous créez des contacts? Est-ce que vous pensez aussi créer une sorte de, d'espace d'information pour les gens qui cherchent des matériaux recyclés et pour les chantiers de démolition qui vont les gaspiller?
Généralement, les gens ils vous appellent. Parce que du coup, maintenant, dans ce secteur-là, on est relativement connu. Du coup, on nous appelle pour tout et n'importe quoi. Du coup, nous, on essaye de retransférer. On n'est pas une plateforme de... On fait peu de réemploi de matériaux, en fait, nous-mêmes, par rapport à ce qu'on gère comme type de matériaux sur les chantiers de démolition. Pour l'instant, dans l'échelle des projets qu'on est en train de gérer, c'est que des matériaux qui sont mis en stock pour le futur projet. Il faut imaginer qu'on a commencé ça il y a... Il y a 4 ans, et du coup, dans l'échelle de projets, sur les types de projets sur lesquels on travaille, 4 ans, c'était le début des démolitions. C'est-à-dire que là, on a en stock les matériaux. Et nous, on récupère, enfin, on nous appelle pour nous dire, ah, on a tel type de matériaux, vous le voulez, vous ne voulez pas. Alors, des fois, ça nous arrive de le récupérer parce que du coup, sur les lieux sur lesquels on travaille, on essaye un maximum de travailler sur du réemploi. Mais par exemple, on est assez vache pour dire, bah non, nous, les matériaux, s'il n'est pas conditionné et amené sur place, on ne le prend pas. Voilà. Bah ouais, parce que du coup, on n'est pas si nombreux que ça à l'association, et du coup, il n'y a qu'une personne qui a le permis, c'est moi. Et moi, j'ai pas envie de faire la manute pour aller tomber des tonnes et des tonnes de béton. C'est pas mon taf. Du coup, moi, je dis non. Et du coup, bon, bah, si moi, je ne vais pas le chercher, quelque chose qui est... Qui est du camion, ça du coup, nous, on a décidé de ne pas faire ça. Du coup, si on nous les amène, on prend et on trouvera des méthodes de travail. Et après, c'est si on a un projet, on va se mettre à chercher des matériaux. Par exemple, on travaille sur une serre agricole dans le 20e arrondissement où c'est la rencontre de 3 associations. Une association qui travaille sur la culture, le cinéma, et une association qui travaille sur la production agricole en ville, et une association de constructeurs et de réemploi, Bellastock. Et du coup, bah, pour ce projet-là, on dessine le projet avec les habitants du quartier et on cherche les matériaux avec les habitants de temps en temps. Mais eux, quand ils disent « Ah, j'ai trouvé des planches là, entre la rue machin et la rue bidule, t'es avec ton camion, viens, on les prend. » Ah non, écoute, là, je suis chez moi, là, donc je suis en week-end, non, je ne vais pas venir les chercher. Mais de côté, je récupérerai demain. Bon, des fois, on fait du réemploi très diffus. C'est pas toujours, ça fait perdre un peu de temps. Mais globalement, ça aussi implique les habitants, parce que du coup, ils sont contents d'avoir récupéré des trucs. Ou ils t'amènent des machins. Et du coup, voilà, on va aller chercher les gisements à ce moment-là. Et sinon, on nous appelle pour faire partie de groupements d'entreprises qui, du coup, veulent trouver une solution pour les matériaux. Par exemple, là, on a des grosses majors du BTP qui nous appellent. Bon, ben voilà, j'ai tant de tonnes de machins. Est-ce que vous avez une idée de quoi en faire ou, c'est-à-dire que ça va changer le chiffrage que lui, il va faire à la démolition. Soit nous, on lui dit, ah ouais, ça, c'est un super matériau, on se le récupère, on va en faire quelque chose. Mais du coup, il faudra nous payer la moitié de la plus-value que vous allez faire. Il faut aussi... aussi gagner son argent là-dessus. Et du coup, lui, il va nous payer pour avoir trouvé une solution technique sur l'écoulement de son matériau. Globalement, bah, nous, c'est parce qu'en fait, on sait qu'on a un projet, on sait qu'on a tel type de choses, on sait qu'on est capable de refaire un composant d'ouvrage avec ce matériau. Voilà, du coup, c'est un matériau, ok, il a été trouvé dans les années 90, l'entreprise existe toujours, ah, t'appelles l'entreprise, allô, on veut la fiche technique de votre tel produit, qu'est-ce qu'il est capable de faire, ok, d'accord, dans quel état vous allez récupérer, vous êtes d'accord pour le récupérer un maximum, comme on pourrait le réutiliser directement, l'entreprise dit oui, on va faire en sorte de tout bien déposer, bah ça, du coup, c'est-à-dire que c'est à vendre à l'achat neuf temps, bah vous pourrez le revendre temps.
Mais en fait, pour revenir là-dessus, la filière du réemploi en France, elle n'existe pas.
Ouais,
donc, il pourrait y avoir des entreprises qui récupèrent, stockent et revendent des matériaux. Ce qu'ils ne veulent pas faire parce que ce n'est pas leur métier, en fait, de vendre des matériaux. Alors qu'en Belgique, il aurait failli y avoir Rotor, mais Rotor, eux, ils ont vraiment travaillé là-dessus. Où en Belgique, il y a une vraie. Il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises de. de réemploi où ils ont des briques, des tuiles, des poutres, des fenêtres, enfin ils ont tout. Vous pouvez construire une maison en allant chez un fournisseur de matériaux de réemploi. À titre d'Emmaüs, mais pour la construction. Et sauf qu'en France, ça n'existe pas.
Il y a les compagnies qui ont un système à tour, mais
c'est à tour. Quoi.
Ouais.
Ouais. C'est une bonne question.
Du coup, ça vous pose. Vous n'avez pas de limite sur les entreprises avec lesquelles vous bossez ? C'est-à-dire que vous pourriez bosser avec Vinci, qui se donnerait bonne image en faisant du réemploi pour 0,002% des matériaux employés ?
Non, pas pour ces fois-là. On est d'accord pour travailler avec Vinci, mais pas pour ces fois-là. Pas pour 0,001% des matériaux.
Ça correspond à beaucoup par rapport à ce qui... Enfin...
Non, mais on va travailler sur un projet.
Ouais.
En fait, tu n'auras pas le choix, ils seront derrière. Enfin, en fait, que ça soit eux ou une autre entreprise, il y a un moment, soit c'est la maîtrise d'ouvrage qui t'a appelé, et tu ne sais pas encore qu'il va y avoir Vinci. Du coup, tu vas les retrouver en face de toi, et du coup, tu fais bonjour Vinci, nous on est là, et du coup, tu vas être obligé de travailler avec eux. Et ils sont dans le monde de la construction, du coup, à partir du moment où toi, tu vas travailler pour une maîtrise d'ouvrage qui te dit, là ici, on a 4 ZAC, par exemple, comme on fait à Bobigny, là, sur la plaine de Lourdes, il y a 4 ZAC, du coup, des projets urbains qui vont durer une trentaine d'années. Là, on est en train de faire les diagnostics de tous les bâtiments, bâtiment par bâtiment, de toute la zone, pour dire quels sont tous les types de matériaux qui se réemploient et comment, il y a un moment donné, et ils vont faire, eux, des appels d'offres de démolition, qui sera de moins de 10 ans sur l'appel d'offres, moi j'en sais rien. Est-ce que ça sera une filiale de FH, de Bouygues ou de Vinci ? Je pourrais pas savoir et je vais pas dire à ce moment-là Ah non, c'est une majeure du BPP, on bosse pas. Non, il y a un moment tu leur dis par contre la méthode c'est ça. Et toi tu vas t'assurer que la maîtrise d'ouvrage elle soit bien défendue. Et toi tu vas la défendre pour que justement ce que tu as écrit contractualisé ça soit respecté et fait comme il faut. C'est le seul truc que tu peux faire, en fait. On n'a pas trop d'autres leviers. Enfin, ou à moins de travailler sur le levier législatif. Mais à l'égard politique, ça nous intéresse moins.
Mais du coup, on a là-dessus que s'assurer que le contrat, il est bien respecté. On a vu que, par exemple, sur le quartier de l'Union, j'imagine que c'était les sapropiques, le petit mur dans le parc, là, le mur en pierre, là.
C'était pas nous, parce que nous, on aurait fait on n'a rien construit dans le parc de Lyon. On a mis en place le processus d'appropriation de 12 jardins dans Lyon. Et donc, effectivement, le mur en terre, c'était géré par l'UPC.
Ouais, donc, il y a les murs en France. On dit qu'en fait, il y a tout ce qu'ils avaient mis en termes de participation, etc., ça a disparu au fil des années. Quoi.
Alors, juste...
Donc, comment s'assurer que le contrat soit...
Parce que, enfin, en tout cas, nous, là, pour l'Union, en fait, c'est qu'à un moment donné, nous, on a créé le processus qui dure en deux ou trois éditions de workshop intensifs. La première édition a eu lieu. Ensuite, il y a eu des élections. Et du coup, à Tourcoing, le maire a changé. Et tout le budget participatif a été injecté dans des grilles et les barrières et les caméras de surveillance. Et ça, on ne peut pas se l'assurer. Quand la maîtrise d'ouvrage, elle change.
Ah, la maîtrise d'ouvrage, elle a tout pouvoir, c'est le cas d'argent.
Et ça,
du coup, elle a le droit de dire
nous,
ça.
On a arrêté notre mission, on ne pouvait plus la continuer. C'est pour ça que, pour notre part, on n'aime pas trop s'embarquer dans ce type de projet. On préfère porter les projets ou être sur des. Nous-mêmes les commanditaires des projets et pas. Et pas être client ou sous-traitant d'une agence de paysage. Ce n'est pas les contextes les plus favorables pour des projets bien aboutis. En fait.
C'est pareil pour nous, sauf que du coup, nous, on a besoin d'étraîner la méthode. C'est-à-dire que nous, on a fait des projets où on était nous-mêmes, on a généré ce projet, on a été porteur de vouloir faire du réemploi dans des projets et de forcer des commanditaires à en faire et tout ça, et à les bloquer, à faire des manifs avec des politiques pour justement un peu faire bouger les choses. Parce qu'à Lille Saint-Denis, c'était un maire écologiste, du coup, il portait pas mal de projets, et un gars hyper sympa et très, très, maîtrise d'ouvrage très, très intelligente. Du coup, il a forcé un peu la SEM, la Société d'économie mixte de pleine commune, à nous accepter. Du coup, c'était intéressant. Du coup, des fois, de temps en temps, c'est bien de s'affilier avec des politiques, mais il faut faire attention. Mais le truc, c'est qu'il y a, en Europe, on a un système qui arrive et qui va dire, qui légifère pour la gestion des déchets à l'échelle européenne et qui dit, de toute manière, en 2020, le bâtiment doit avoir diminué de 70% ses émissions de déchets. Du coup, même les gros vont devoir trouver des solutions. Et si on ne veut pas qu'ils arrivent à des solutions pourries, eh ben, il faut leur proposer des alternatives intéressantes. Et nous, on pense que le réemploi sont les... Du coup, on ne peut pas ne pas travailler avec eux, ils sont là. Du coup, et en plus, ce n'est pas nous qui contrôlons de travailler avec eux ou pas. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'ils nous appellent pour justement avoir des nouvelles, comment ça se passe le réemploi. Du coup, on est toujours à venir. Une fois, c'est des espionnages industriels, du coup, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, nous-mêmes, on a réfléchi au sein de l'association à se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de changer de type de structure juridique ? Du coup, de ne plus exercer en asso, mais du coup, de créer, par exemple, une SIC, une société collaborative d'intérêt collectif, où, en fin de compte, tu fonctionnes avec différents collèges et où tu peux faire entrer dans le collège de la SIC des entreprises privées qui peuvent mettre de l'argent au capital de la SIC sans pour autant augmenter leur capital de pouvoir. Ils n'auront toujours qu'une seule voix dans leur collège des adhérents privés, par exemple. Et du coup, de transformer... En fait, on s'est dit que nous, on allait garder notre système associatif parce qu'on y était attaché, et que, par contre, ça pouvait être intéressant de créer des SIC territorialisées. Merci. Des SIC territorialisées, où, justement, là, on pourrait faire rentrer des acteurs de l'économie classique, où, ok, d'accord, ils ont de l'argent sale, mais si on contrôle la manière dont est utilisé cet argent et pourquoi elle est utilisée, eh ben, on l'a blanchi un peu, je suis d'accord avec vous, mais il y a un moment où il faut trouver des sous pour faire fonctionner la machine. Et là, du coup, c'est pas des sous qui seraient pour l'association de la stock, mais du coup, pour une SIC qui serait du coup, des sous pour un territoire et un projet de territoire. Et du coup, là-dedans, il y aurait aussi des élus et plein de membres du territoire qui prendraient place dans cette hyperstructure où on mettrait des habitants et d'avoir en fait une machine qui puisse faire discuter tous ces acteurs du territoire qui ont du mal à discuter ensemble et qui savent pas. D'ailleurs, les élus ils discutent avec les habitants pour se faire élire, mais après, quand il y a des projets, ils demandent via le biais d'une concertation un peu bizarre qui va retomber sur les habitants qui mais de quoi à vous et du coup. Ces gens-là, c'est des acteurs qui ne savent pas discuter ensemble, et du coup, l'idée est de trouver des formes de création collaborative, et du coup, par exemple, la structure juridique type SIC, nous, on est en train d'essayer de voir si c'est un modèle qui est intéressant. Bouchain le promulgue pas mal, et du coup, Patrick Bouchain, notez-le, je sais pas. Et voilà, et du coup, lui, il promulgue ça, et du coup, nous, on va essayer de voir si c'est un modèle intéressant, on va le tester. Mais c'est difficile de refuser de l'argent comme ça. Ça dépend pourquoi, mais...
Une question, savoir si vous pouviez un peu présenter vos parcours, parce que j'ai pu comprendre que vous avez tous au départ des formations d'architecte. Ouais. Comment vous en êtes venu à questionner autant toutes les pratiques de votre métier et de tous les métiers autour
C'est comment on s'est rencontrés.
Okay. Oui, c'était avant.
C'est ça, oui.
Avec le temps, non, mais dans les études, enfin pour ma part, c'est dans les études d'archi. Rapidement, je suis arrivé à être intéressé par l'autoconstruction, par l'appropriation. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi les architectes devaient être le chef du bâtiment. Il a des compétences, l'architecte, effectivement. Mais pourquoi est-ce que cela était pyramidal ? C'était vraiment... c'est parti de cette hiérarchisation de la construction. Et comment est-ce qu'on peut inclure un bâtiment ?
Bah moi, j'avais bien compris le côté pyramidal, mais je me disais, c'est difficile de donner des ordres à des gens si tu ne sais même pas, toi, faire ce qu'ils font. Du coup, j'étais d'accord pour le système pyramidal, mais du coup, j'ai fait en sens inverse.
Et puis il y a aussi une envie de mettre la main à la pâte, enfin il y a une envie de construire avec ses mains. Il y a quand même ce truc-là qui est enfantant, en fait, par rapport à la cabane, et des trucs comme ça. Qui est vraiment, enfin en tout cas pour ma part, d'arriver à tout manger.
Ouais, nous c'était pareil, on était encore étudiants et du coup on trouvait regrettable de jamais toucher la matière. Et du coup, c'est l'appel de la matière. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un festival de construction. C'était pour éviter de faire un week-end d'intégration type école de commerce. Du coup, on s'est dit, ah ouais, vas-y, on a que construire une ville. Hein, on était déjà mégalo, et du coup, on a continué de l'être.
Mais aujourd'hui, il y a un collectif de collectifs qui s'appelle Superville, qui en fait regroupe un peu toutes ces pratiques-là. On se voit tous les deux ans pour l'instant, mais il y a des chances que ça... Et autant quand on a commencé il y a 10 ans, il y avait 5, 6, 7 collectifs en France, maintenant il y en a 30 ou 50.
Ouais, je peux même dire plus à mon avis.
En fait, pour l'architecture, elle est un peu... il n'y a plus de boulot, il n'y a vraiment plus de travail. Mais beaucoup de jeunes architectes qui sortent de l'école se montent en collectif pour essayer quand même de faire des trucs. En acceptant de gagner moins qu'un architecte. Largement.
Là, pendant l'atelier, vous avez évoqué le rôle de l'ingénieur, mais finalement, c'est plutôt le rôle de l'entreprise dont on subodore le greenwashing, etc. Mais vous avez placé au centre le rôle de l'ingénieur qui est comme déterminant. Et vous, alors, est-ce que c'est l'équivalent, ce serait l'urbaniste avec un grand U mais en tout cas, est-ce que vous avez l'impression que finalement, les questions et les problèmes à résoudre relèvent de quelque chose de systémique, parce que le terme de systémique est beaucoup revenu à l'atelier cet après-midi, mais donc qui relève de quelque chose de systémique, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des rôles déterminants, sur lesquels il faut finalement faire à leur place? C'est-à-dire que ce que vous nous présentez avec Bellastock, c'est, en tout cas dans votre présentation, c'est on prend la place de l'ingénieur, quoi, d'une certaine manière. Avec d'autres finalités, mais on prend les outils de l'ingénieur et on fait à sa place.
Non, on n'a pris que les outils de l'archi. On prend que les outils de l'archi. C'est juste que l'archi, il sait dessiner des détails techniques. Et alors, peut-être pas ceux d'aujourd'hui, mais peut-être c'est plus ce qu'ils apprennent à l'école. Mais normalement, on est censé pouvoir dessiner des détails techniques.
Disons, comme l'ingénieur, vous avez une approche très procédurale. Alors que l'architecte, il n'a pas une approche procédurale des matériaux. Lui, il est dans le dimensionnement, dans la finalité, quoi.
Moi, quand je travaillais en agence sur les chantiers, mon boulot, c'était quand même de vérifier que les fiches techniques... Et je faisais le boulot pour l'ingénieur, hein, parce que du coup, en gros, il fallait que je vérifie que les fiches techniques, ça soit les bonnes, que les produits correspondent aux fiches techniques, que c'était bien ce qui était préconisé sur les CCTP, qu'effectivement, on était sur des... Et c'est toutes ces procédures. Et du coup, c'est vrai qu'on les réutilise là, et parce qu'en fait... on essaie de faire montrer patte blanche aux matériaux de réemploi. C'est-à-dire qu'en fait, il est aussi noble que les autres matériaux. C'est juste que on peut le réutiliser, mais il offre plus de possibilités parce qu'il a besoin d'un retravail. Et ce retravail, il ne sera pas fait en usine. C'est un peu comme les matériaux biosourcés. On ne peut pas assurer de la continuité du produit. C'est-à-dire qu'il vient de bâtiments différents. Ont du coup été constitués à des époques différentes, ont subi des dégradations dans le temps qui ont été un petit peu différentes. Les bétons, ils ne sont pas chargés de la même manière en fonction des époques. Et oui, tout ça, c'est très technique. Mais on est obligé de se poser ces questions-là. Et ça fait partie aussi du travail des architectes d'être très technique. Quand on écrit des DTU, c'est des architectes qui rédigent une partie des DTU et on travaille avec des ingénieurs. Là, le problème dans le monde de la construction, c'est que du coup, pour s'assurer une validation d'assurance et d'être sûr d'être dans les décennales et tout ça, de rentrer bien dans tous les petits papiers, tout le monde demande à ce que... c'est la surenchère de l'assurance. C'est-à-dire, votre produit, est-ce qu'il est bien comme il faut? Est-ce qu'il correspond à tel critère? Et là, le gars, il arrive, voilà, ça, c'est les calculs. Ce produit-là, il sort d'une machine qui, elle-même, a le produit, qui dit qu'elle est capable de produire tant de produits à la minute avec des risques d'erreur qui seront de 0,001. Et du coup, il suffit d'avoir le système de vérif qui est derrière. Hein, et du coup, tout le monde s'assure en disant, voilà, tout ça, ça a été calculé. Il y a des gens qui l'ont compris, qui ont été capables de calculer ça, et ils vous l'ont marqué sur un papier. Du coup, soit vous êtes ingénieur et vous êtes capable de recalculer pour bien comprendre, mais soit vous signez le papier, vous dites, ah, bah, il y a le papier, c'est bon, il y a le papier. Du coup, en gros, la construction, elle fonctionne comme ça. Maintenant, on est avec les gros papiers, puis on dit, tout va bien, c'est sur le papier, tout est sur le papier. Mais du coup, les matériaux qu'on nous propose, c'est quand même des matériaux composites plastiques de merde qui viennent se mettre sur des façades où derrière, on a coulé du béton. On n'a pas montré ça, le truc sur les bétons. Ou derrière, on est en train de fabriquer du béton prêt à l'emploi, parce que c'est du béton qui est pas loin, du coup, dans les ACV, on arrive à le faire en passer comme un matériau écologique, et on te bétonne tous les bâtiments, après par-dessus, on met de l'isolant, par-dessus, on remet du plastique, et ainsi de suite, et on va changer ces couches de plastique tous les 15 ans, parce que de toute manière, elles vont se dégrader avec les UV, et ça, c'est les ingénieurs qui nous l'ont produit, parce que l'industrie leur a demandé. Et l'industrie, elle, ce qu'elle veut, c'est se faire un max de blé. Du coup, elle va produire des matériaux qui, on va devoir les changer, oui, parce que de toute manière, on leur demande contractuellement de tenir 10 ans. Ils tiennent 10 ans, on amortit les bâtiments sur 30 ans, du coup, au bout de 30 ans, on peut se dire, on le démolit. Ben voilà, du coup, d'où le problème de, nous, on travaille sur la démolition, on préférerait travailler sur la conservation des bâtiments et trouver des manières de les réutiliser. Est-ce qu'on doit, des fois, de temps en temps, un peu démolir, puisque quand même, si on veut faire évoluer la ville, c'est intéressant d'enlever des morceaux, et ben ça, on est capable de le réemployer de manière correcte et intelligente. On le fait pour les bâtiments patrimoniaux. On est capable de garder des structures Eiffel qui ont été complètement pourries à cause de la rouille. Et on va injecter des millions pour les garder parce que c'est Eiffel. Et du coup, bon, bah, voilà, on sait le faire. On saurait le faire pour des bâtiments moins nobles, mais dont on pourrait être en capacité de garder les matériaux. Voilà, d'où la grogne sur les ingénieurs, mais parce qu'ils sont vendus à l'industrie.
Non, parce que non, mais plus largement, en fait, c'est le rôle de l'expertise. C'est-à-dire que si l'expertise est attribuée à l'ingénieur dans un système classique, dans le système que vous essayez de mettre en place, on peut aussi imaginer que l'expertise, c'est vous qui l'avez. Et du coup, ça pose quand même aussi la question de comment cette expertise-là peut être distribuée, comment elle peut être prise en charge finalement.
En fait, nous, on va la séparer, l'expertise. Le principe va être de la séparer sur différents corps de métier. C'est-à-dire que l'archive va prendre une partie de l'expertise, l'ingénieur probablement une partie, et l'entreprise va en prendre une autre. C'est-à-dire que tout le monde va s'affilier une part de l'expertise. Nous, pour l'instant, on contrôle toute la filière, parce qu'en fait, du coup, on est en train de mettre en place la méthodologie, mais quand on aura réussi à mettre en place, par exemple, les règles professionnelles pour les entreprises, elles vont se charger de leur expertise sur le matériau qu'elles vont recevoir. C'est-à-dire que, admettons, on va réemployer de la brique, elles vont prendre la brique et toutes les 50 briques, elles vont taper la brique contre une autre brique pour voir si elle casse. Et du coup, ils auront un échantillonnage avec un petit tableur Excel où ils noteront, ok, cette brique-là, hop. Après, ils mettront une petite brique sous une presse manuelle avec un système dynamométrique pour savoir à quelle pression elle éclate. Hop, ils notent la pression de la brique et tous les 50 ou 100 briques, et ben, ils notent ça et ça, ils l'envoient à l'assurance pour dire, voilà, moi, j'ai fait tous mes autocontrôles sur les matériaux que j'ai utilisés et je les ai utilisés comme les autocontrôles donnaient ça comme résultat. Je les ai utilisés en briques pour faire des parois intérieures et pas extérieures parce qu'elles résistaient pas au gel, elles n'étaient pas assez machin, ainsi de suite, ou en pavement extérieur parce qu'elles pouvaient résister au gel. Du coup, ça, c'est organiser ces trucs-là et du coup, on donne cette expertise-là aux entreprises puisque c'est elles qui vont mettre en œuvre. Après, les archis, on leur donne l'expertise d'être capable de dessiner avec des matériaux de réemploi. Et les ingénieurs, ils l'ont déjà, c'est d'être capable de calculer les résistances mécaniques des matériaux. Et du coup, c'est de redonner des expertises à tout le monde, mais dans le domaine de compétences réemploi. Et du coup, de les redistribuer à peu près comme elles sont déjà distribuées. On ne transforme pas le système. C'est juste qu'en affirmant que les entreprises peuvent mettre en place des matériaux de réemploi, on remet quand même le savoir-faire sur des matériaux qui sont en train de disparaître. Parce que du coup, c'est du travail de taille de pierre, c'est du travail de plomberie, de métal, et ça maintenant tout arrive de Chine, il n'y a plus qu'à poser. Alors des serruriers, on en trouvera toujours, mais là c'est continuer aussi le travail avec. On pourra avoir peut-être, ça permettra peut-être d'avoir plus de serruriers sur le territoire, hein. De ferronniers, tout ça.
Alors, est-ce qu'il y a une dernière question?
On doit rendre la salle pour 21h, donc une dernière.
Quand on parle d'habitat autoconstruit, ça me fait aussi penser aux zones d'habitat que sont les bidonvilles, les bidonvilles, qui sont aussi des habitats autoconstruits. Alors c'est la relation est peut-être un peu éloignée, mais est-ce qu'il y aurait peut-être des liens possibles entre vos associations et les habitants des bidonvilles, ou comment ça pourrait se profiler si vous avez un projet de ce type ou non, ou...
Déjà, la forme bidonville, c'est un peu c'est ce qu'on recherche en termes d'urbanisme. C'est comme ça. Les villes, elles devraient commencer par un bidonville. En fait. Les quartiers devraient commencer par un bidonville. Et petit à petit, avec le temps, avec le processus, se construire, devenir de plus en plus pérenne, de plus en plus grand. Et en fait, toutes les villes, en tout cas en Europe, toutes les villes dans le monde, elles sont parties comme ça, en fait. Elles sont parties avec des petites constructions, des petits agglutinements de population, et on construit un quartier, on construit une communauté, et petit à petit, ça grandit, en fait. Donc, a priori, tout à fait, sauf que, il n'y a pas de sauf que. Mais dans le contexte urbain actuel et politique, les bidonvilles, ils sont dans des états pitoyables parce qu'il n'y a aucune volonté politique de les pérenniser, en fait. Et donc, et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, on pourrait... Enfin, après, il faut regarder où est-ce qu'ils sont placés, parce que tout... Enfin, là, les bidonvilles, autour de l'île, on a beaucoup qui sont placés dans des endroits où personne n'aura habité, le long des autoroutes, par exemple. Mais du coup, enfin, voilà, chaque bidonville pourrait être... On pourrait se poser la question, mais la jungle de Calais, par exemple, c'était quand même une expérience urbaine qui était quand même assez remarquable à voir et à analyser.
La ZAD
aussi, c'est... Ouais, la ZAD, c'est pareil, en fait. C'est la même chose. Et en fait, c'est pas la même problématique, mais c'est dans cet esprit-là, c'est de l'occupation de l'espace, et à partir de l'occupation de l'espace, on construit un quartier. En tout cas, pour moi, c'est un peu ce serait l'idéal. Mais du coup, il faut qu'il y ait des volontés politiques, enfin, hyper fortes pour pouvoir arriver à ce contexte-là. Après, il y a des archives qui ont réfléchi à comment est-ce que on peut justement, sans passer par le bidonville, arriver à créer l'esprit d'agglutinement de richesse spatiale, parce qu'en fait dans les bidonvilles il y a plein de matériaux, il y a aucun bâtiment qui se ressemble, et en même temps il y a une unité, il y a quand même une certaine unité, et c'est enfin ouais, c'est une très grande richesse urbaine et spatiale. Mais c'est en France, c'est quand même compliqué, à part de faire du social pour aider les gens, mais à dire on va construire, on pérennise ce bidonville, c'est très politiquement incorrect. Et même les voisins, enfin il n'y a pas que les politiques, hein, la population en général est absolument contre les bidonvilles. Mais y a un truc à analyser quand même. Du coup, voilà, toute l'histoire du processus. Enfin, voilà, et en fait, un bidonville, c'est un processus d'occupation de l'espace qui, du coup, avec le temps, eh ben, se construit, en fait. Et nous, c'est un peu en partant de l'analyse des bidonvilles qu'on est parti en disant, en fait, ce qui compte pas, c'est la forme finale, mais c'est le processus de mise en œuvre, en fait. Voilà, si un jour on a un quartier à faire, on prendra une note.
Alors nous, pour cette question-là, c'est une question très compliquée qu'on se pose depuis le début. Du coup, on est un peu spécialiste des campements, puisque du coup, la ville éphémère est souvent pas beaucoup plus développée qu'un bidonville, voire même moins. Effectivement, on nous appelle, on nous dit qu'il faudrait faire quelque chose, comment ça se fait que votre association ne fait rien et tout ça. Et du coup, c'est un peu compliqué, parce qu'on avait travaillé avec la Fondation Abbé Pierre à une époque pour discuter de ces choses-là, parce que du coup, nous, on s'était dit, bon, bah, on fait ça, peut-être ça se trouve, on peut aider. Quoi. Et au final, les discussions, c'était assez compliqué, parce qu'en fait, la Fondation Abbé Pierre disait, bah non, nous, on ne veut pas faire ça, enfin, on ne travaille pas comme ça. Parce que on ne veut pas pérenniser les bidonvilles, parce que du coup, si on fait des trucs qui sont trop précaires, qui améliorent d'accord la situation de ces personnes-là, mais qui sont trop précaires et qu'en plus dedans, là, on y amène des architectes et des gens qui sont censés représenter le savoir technique sur l'architecture et tout ça, c'est-à-dire que ces gens-là tolèrent le fait de faire de la sous-architecture, d'architecture de basse condition. Et du coup, on crée deux échelles d'architecture, une architecture pour les riches et une architecture pour les pauvres. C'est du coup une chambre, normalement, c'est censé faire 9 mètres carrés. Dans un bidonville, on ne peut pas faire des baraques avec des chambres de 9 mètres carrés pour tout le monde. Les familles elles sont grandes, puis ils ne veulent pas être trop séparés parce qu'il y a des questions de. Du coup, on ne peut pas respecter le cadre de la norme. Ouais, nous, on est très normés. Hein. On ne peut pas respecter le cadre de la norme, et si on le dépasse comme ça, en fait, on est en train d'ouvrir la possibilité à des marchands de sommeil de pratiquer ce genre de choses et de dire, bah, voilà, nous, en tant que sachants de l'architecture, on considère que bah, ouais, on peut vivre là-dedans. Oui, ça résout un problème technique pour ces gens-là à ce moment-là, mais au final, à l'échelle générale sur la France, on va ouvrir une brèche sur un truc compliqué. Du coup, nous, on s'est toujours dit qu'on était OK pour essayer de bosser avec des assos dont le cœur de métier est plus de travailler avec ces populations que le nôtre et de mettre au service de ces associations notre savoir-faire sur la construction. Mais du coup, tout le problème, c'est que du coup, bah, il faut quand même des budgets parce que la construction, nous, on veut bien offrir de la conception gratuite, par exemple, mais il y a un moment, il faut de l'argent et des budgets pour qu'il y ait des gars qui construisent. Parce que du coup, ça prend du temps. Même si c'est eux-mêmes qui construisent, il faut qu'ils aient les matériaux. Voilà. Après, à l'échelle plus humaine de mano à mano, nous, il y a les Roms qui passent souvent chez nous pour. On leur fait du matos pour fabriquer les cabanes. Il ne faut pas le dire. Surtout quand l'hiver arrive.